sud, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. 192 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui en Indonésie pour désigner leur prochain président. Le scrutin en forme de match retour des précédentes élections il y a 5 ans oppose le chef de l'État sortant à un ancien général de l'armée. Et à en croire les premiers sondages, le président Joko Widodo serait à nouveau le mieux placé pour l'emporter et accéder ainsi à un second mandat.
Le Nicaragua au bord de l'abîme.
Le gouvernement interdit aujourd'hui à l'opposition de manifester pour commémorer le premier anniversaire des protestations contre le pouvoir du président Ortega.
En France, la famille Pinault a annoncé ce matin qu'elle ne ferait pas valoir l'avantage fiscal auquel pouvait prétendre son don de 100 millions d'euros pour le chantier de réhabilitation de Notre-Dame de Paris.
Et le président de la holding familiale et président du groupe de luxe considère qu'il n'est pas question d'en faire porter la charge aux contribuables français. De son côté, Emmanuel Macron a dit hier soir à la télévision souhaiter que la reconstruction de l'édifice soit achevée d'ici 5 ans. En revanche, et sans dévoiler officiellement le détail de ses annonces pour résoudre la crise des Gilets jaunes, le chef de l'État a promis aux Français qu'il reviendrait vers eux pour tenter de retrouver les fils de notre projet national. D'où les accusations qui commencent à se faire entendre sur la volonté supposée du maître des horloges de gagner du temps. Et puis, c'est aujourd'hui le jour de notre rendez-vous mensuel consacré à une question environnementale. Dans une vingtaine de minutes, nous nous intéresserons à l'étendue de la fonte des glaciers qui ont perdu ces 50 dernières années des milliards de tonnes d'eau. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
On va aller voir du côté de la jeunesse debout la nuit avec le réalisateur et l'auteur du film documentaire qui sort en salle aujourd'hui, L'Époque. Mathieu Barrère et Marion Sieffer seront avec nous à partir de 12h55.
Merci et à tout à l'heure. Sauver ce qui peut encore l'être parce qu'elle est notre patrimoine commun, mais aussi parce que les dégâts sont aujourd'hui considérables. La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg a rendez-vous aujourd'hui au Vatican pour alerter le souverain pontife sur les prévisions apocalyptiques qui menacent l'avenir de notre planète. La veille déjà, invitée au Parlement européen et conformément au discours qu'elle répète désormais dans le monde entier, la jeune fille était venue rappeler combien l'impératif est aujourd'hui autant historique que politique. « Je veux vous faire paniquer, je veux vous faire agir comme si votre maison était en feu », a-t-elle débuté avant de s'inspirer de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame pour rappeler la fragilité de notre civilisation. Hier, le monde entier a assisté avec tristesse et désespoir à l'incendie de Notre-Dame de Paris, mais Notre-Dame sera reconstruite. J'espère que ses fondations sont solides, j'espère que nos fondations sont solides aussi, mais je n'en suis pas sûr, a-t-elle lancé aux parlementaires avant d'ajouter « Il va falloir passer en mode cathédrale. Je vous demande de vous réveiller et de faire ce qui est nécessaire ». Antonino Gallofaro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Rome, alors on n'imagine pas que la seule parole divine suffira à mettre fin à la course de l'humanité vers la catastrophe climatique. Dès lors, qu'est-ce que Greta Thunberg va bien pouvoir dire au souverain pontife?
Eh bien, quelques mots seulement. Un bref échange a eu lieu ce matin place Saint-Pierre après l'audience générale hebdomadaire du pontife avec les fidèles réunis comme chaque mercredi devant la basilique. Quelques mots, une accolade, mais aussi un message écrit sur une pancarte en anglais. Rejoignez la grève pour le climat. C'est ce que l'on voit sur les images où le pape sérieux échange avec la jeune fille. Mais on peut imaginer que son attention pour Greta Thunberg est profonde et réelle. On connaît l'importance que François accorde au thème climatique. Il y a dédié une encyclique entière en 2015, Laudato aussi, sur la sauvegarde de la maison commune. L'accueil en Italie, toutefois, devrait être moins chaleureux. On se rappelle encore ici des paroles « Je l'écraserai avec ma voiture » d'une écrivaine et journaliste sur la RAI, la radio publique. Ces paroles résonnent à Rome où d'innombrables voitures et scooters engorgent les rues et détruisent les pavés chaque jour sans laisser place au transport public où les questions écologiques et climatiques ne sont que rarement abordées par la politique locale. Maria Giovanna Maglie, la journaliste, a ensuite minimisé ces mots, mais elle a exprimé un sentiment assez diffus dans la péninsule. Greta Thunberg est un outil de propagande, elle est instrumentalisée pour la chanteuse Rita Pavone, et la jeune fille ressemble même à un personnage de film d'horreur, c'est dire. En Italie, jamais de demi-mesure dans la critique et toujours une méfiance envers ce qui est vu ici comme du politiquement correct. Le soutien que la militante écologiste et sa lutte reçoivent, il se mesurera ce vendredi, place du peuple à Rome, la place des luttes politiques pour les Fridays for Future italiens, où sera donc aussi bien sûr présente Greta Thunberg.
Merci Antonino Gallofaro en direct de Rome. Épreuve que le combat pour la préservation de l'environnement est encore loin d'être gagné à Londres hier, alors que des manifestants occupaient pour la deuxième journée consécutive des carrefours emblématiques de la capitale pour dénoncer l'inaction du gouvernement face au changement climatique. La police a annoncé avoir interpellé pas moins de 290 militants écologistes. Des jungles de Bornéo jusqu'à la mégalopole de Jakarta, plus de 190 millions d'Indonésiens étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour élire le président du pays comptant la plus importante population musulmane au monde, l'élection probablement la plus importante mais aussi la plus complexe de l'histoire de la troisième plus grande démocratie du monde, et pas seulement du fait du nombre record des 245 000 candidats en lice à la fois pour la présidence et les parlements nationaux et locaux, ni en raison du défi logistique qu'elle représente dans un archipel de 17 000 îles entre l'océan Indien et Pacifique. L'enjeu de ce scrutin repose surtout en réalité sur un duel. D'un côté, le président sortant, Joko Widodo, vu comme un musulman modéré, cultivant le sens du consensus, même s'il a choisi en l'occurrence un prédicateur islamiste conservateur pour être son candidat à la vice-présidence, de quoi inquiéter déjà les plus progressistes dans un pays où l'islam conservateur progresse. Et puis de l'autre, un ex-général, Prabowo Subianto, lequel s'est lui rapproché directement des groupes islamistes les plus radicaux, un homme à poigne, desservi toutefois par ses liens avec le régime du dictateur Suharto, dont il a été le beau-fils, ainsi que par son passé militaire controversé. Reportage ce matin dans les bureaux de vote de Jakarta, signé du correspondant de RFI pour France Culture, Joël Bronner.
Rika Hilary a le doigt taché d'encre, preuve qu'elle vient de participer au scrutin. Comme près d'un tiers des électeurs aujourd'hui, cette étudiante en médecine de 21 ans votait par ailleurs pour la première fois. Elle explique pourquoi elle a donné sa voix au président sortant, Joko Widodo.
J'ai pu constater le résultat de son travail, notamment de ses projets d'infrastructure. Et j'ai surtout pu voir sa générosité à l'égard du peuple. Et pour moi, c'est cela qui, de loin, est le plus important.
Mohamed Irfan, 41 ans, est agent d'entretien. Ce matin, il est venu voter avec sa mère. Tous deux viennent d'accorder leur soutien à l'ancien général Prabowo Subianto.
J'ai entendu beaucoup de prêches en faveur de Prabowo Subianto. Ils disent qu'en tant qu'Indonésien et en tant que membre de la communauté musulmane, il faut le choisir lui. Alors moi, je suis ce que disent les oulémas.
Dans le premier pays à majorité musulmane au monde, la question de l'islam a joué un rôle central dans cette campagne. Le poids des radicaux n'a cessé de progresser ces dernières années dans l'archipel et ils se sont massivement ralliés à l'adversaire du président sortant. Pour donner le change, Joko Widodo a lui fait le pari d'un colistier musulman très conservateur, quitte à offrir aux religieux un trône au sommet de l'État.
Et je précise que selon les premières estimations portant sur un peu plus de la moitié des suffrages exprimés, le président sortant, Widodo, serait crédité de 56,7% des voix contre 43,3% un adversaire. En Algérie, deux semaines après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, dont il était un proche, le président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz, incarnation de ce système dont la contestation réclame la fin, à son tour démissionné. Dans le même temps, des dizaines de milliers d'étudiants ont à nouveau manifesté sans incident dans plusieurs villes du pays. Et puis, au Soudan, là-bas aussi, les manifestants continuent à afficher leur détermination à obtenir un pouvoir civil. 24 heures après avoir réclamé la dissolution du Conseil militaire de transition, ils ont afflué encore plus nombreux devant le QG de l'armée avec un message clair. La destitution du président El-Béchir et les promesses du Conseil militaire d'instaurer un gouvernement civil sans donner de calendrier ne suffisent pas. Ce matin, le président déchu a lui été transféré en prison. Quand le Nicaragua s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise, pris à la gorge par les sanctions internationales, mais aussi la récession économique, est confronté à une opposition qui ne désarme pas, le président Daniel Ortega continue à s'accrocher coûte que coûte au pouvoir. Plus de 60 000 personnes ont pourtant déjà fui son pays depuis le début de la crise politique. Plus de 600 opposants ont également été jetés en prison. Quant aux violences politiques, elles ont fait plus de 325 morts, en majorité dans les rangs de l'opposition. Alors aujourd'hui, l'opposition justement a lancé un appel à manifester pour commémorer, au plus exactement, honorer un an d'insurrection civique contre le pouvoir d'Ortega. Sauf que toutes les demandes d'autorisation de manifester ont d'ores et déjà été rejetées par les autorités. Les précisions d'Olivier Poujade.
C'est un nouveau signe de fébrilité que révèle aujourd'hui Daniel Ortega. Le leader sandiniste s'était engagé lors des négociations avec l'Alliance civique pour la justice et la démocratie à respecter le droit constitutionnel de la population à manifester. Après quelques semaines de dialogue en mars, les deux camps semblent donc de nouveau se diriger vers une confrontation dont le bilan s'avère déjà lourd. Depuis l'an dernier, 300 morts, 2000 blessés, 62 000 exilés, des chiffres mis en avant par le Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme qui appelle aujourd'hui le gouvernement à s'organiser pour éviter un usage excessif de la force. Hormis quelques gestes comme notamment la libération ou le placement en résidence surveillée de près de 800 prisonniers politiques, Daniel Ortega ne semble plus miser que sur la répression pour résister à la pression populaire. Face à lui, une constellation de partis politiques, d'associations, d'étudiants, de membres de la société civile, 70 organisations au total, mais surtout le renoncement d'anciens alliés de poids dans la région, le dernier en date, le Canada, qui a pris la décision en début de semaine de suspendre son aide financière, invoquant la violation des droits humains sur le territoire nicaraguayen. L'un de ses principaux créanciers, le Venezuela, n'a lui plus les moyens de soutenir le régime Ortega, et Washington vient de son côté de mettre en place le NICA Act, une loi destinée à couper l'accès du pays aux prêts internationaux.
Souscription nationale, conférence de donateurs, mécènes, cagnotte en ligne au lendemain de l'incendie qui a ravagé lundi soir la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les Français rivalisent d'appels ingénieux pour financer sa reconstruction. Au total, acteurs publics et privés ont promis quelques 750 millions de dons. Ce qui a aussitôt fait naître de premiers soupçons d'opportunisme ou de récupération. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dès ce matin, la famille Pinault a annoncé qu'elle ne ferait pas valoir l'avantage fiscal auquel elle pouvait prétendre sur son don de 100 millions d'euros pour le chantier de réhabilitation de la cathédrale. De son côté, Emmanuel Macron, dans son adresse à la Nation, a lui promis de reconstruire en 5 ans Notre-Dame de Paris, un véritable défi. Cécile de Carvazdoué a sollicité à ce sujet l'analyse de Jean-Michel Loyer-Ascouette, directeur général du patrimoine au ministère de la Culture. Pour lui, cet engouement financier massif va effectivement permettre de pérenniser la reconstruction et les restaurations à venir de la cathédrale. En revanche, les travaux s'annoncent d'ores et déjà comme extrêmement longs.
En l'état, autant on peut envisager que ça la accompagne plus rapidement les opérations de conservation-restauration, autant là, les opérations d'urgence et de sécurisation, elles doivent être faites avec énormément de prudence et tout le temps à considérer. Et en plus, il y a très peu de spécialistes. Donc là, effectivement, va se poser la question de la capacité en fait des entreprises monuments historiques qui sont extrêmement sollicitées et extrêmement mobilisées en ce moment. Mais effectivement, c'est un chantier d'ampleur. Alors très coûteux, très certainement, compte tenu des conditions de travail des entreprises sur puisque c'est de très grande hauteur, les échafaudages vont être extrêmement compliqués à monter puisqu'ils ne doivent jamais peser sur l'édifice. Le bâchage, le parapluie pour protéger en fait des intempéries. L'ensemble de la voûte qui aujourd'hui n'existe plus, et ensuite le temps des études, puis le temps de restauration dès lors qu'un parti aura été pris. Donc c'est effectivement des opérations qui sont longues. Et en fait, les campagnes de restauration vont s'étendre quand même sur plusieurs années, puisque manifestement, au vu de l'engouement provoqué, nous aurons tous les moyens nécessaires pour restaurer en continu et faire sans doute des opérations d'entretien qui n'auraient pas été faites avant de la cathédrale.
Voilà Jean-Michel Loyer-Ascouette, directeur général du patrimoine au ministère de la Culture. Il répondait à Cécile de Carvazdoué. Alors on l'a vu, l'émulation des grandes fortunes pour participer à la reconstruction de la cathédrale n'aura pas mis bien longtemps à jeter le doute sur la véritable nature de cette soudaine générosité. Et puis outre les polémiques sur les niches fiscales, la trêve pascale se retrouve par ailleurs mise à mal à présent par des querelles politique cette fois-ci. Le prêche d'Emmanuel Macron hier soir appelant à la reconstruction de l'édifice d'ici 5 ans n'a pas fait oublier que le président était attendu lundi soir pour une autre allocution télévisée censée dévoiler les pistes retenues du grand débat national pour résoudre l'une des plus graves crises économiques que la France a connue ces 30 dernières années. Steven Goyer, bonjour.
Bonjour.
Il se trouve que dès hier, le contenu de ces annonces a été en partie dévoilé par la presse. Dès lors, pourquoi ne pas les annoncer officiellement, d'où ce reproche de plus en plus entendu qui veut que le chef de l'État chercherait ici uniquement à surfer en somme pour quelques jours encore sur cette cohésion nationale qui lui faisait en défaut depuis des mois.
Reproche ou opportunité, façon de voir les choses. Après les assemblées du grand débat au milieu de l'arène, le président de la République tente de se remettre au-dessus de la mêlée avec cette image de président rassembleur usant du « nous », du « ensemble » pour faire oublier quelque temps les divisions qui avaient pu naître dans l'attente des annonces post-grand débat. Un sujet qui recule donc dans l'ordre des priorités d'Emmanuel Macron.
Je reviendrai vers vous comme je m'y étais engagé dans les jours prochains, pour que nous puissions agir collectivement suite à notre grand débat. Mais ça n'est pas le temps aujourd'hui. Demain, la politique et ses tumultes reprendront leurs droits, nous le savons tous. Mais le moment n'est pas encore venu.
Seulement cet appel à l'attente, au rassemblement, est loin de faire oublier les annonces qui auraient dû être faites lundi soir. Écoutez par exemple ce qu'en dit l'une des porte-paroles des Gilets jaunes, Ingrid Levavasseur, interrogée par nos confrères de BFM TV.
Je compatis énormément à cette douleur de l'incendie de Notre-Dame. J'aimerais juste que l'on revienne à la réalité. Moi, j'aimerais juste que on nous explique comment ils vont pouvoir mettre en place ces réformes. Est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce que la suppression de l'ENA va nous apporter quelque chose au niveau du pouvoir d'achat? Est-ce qu'on parle réellement de pouvoir d'achat? Parce que la pérennisation de la prime de fin d'année, c'est juste normal à la limite. J'aimerais vraiment qu'on approfondisse les choses.
Et malgré l'absence d'annonce, l'allocution diffusée hier soir a été suivie par près de 14,5 millions de téléspectateurs.
Merci Steven Goyer. La Cour administrative d'appel a annulé hier les décisions ayant eu pour objet la cessation par l'État français de 49,99% des parts du capital de la société Aéroport de Toulouse-Blagnac. La Cour avait été saisie par 3 syndicats opposés donc à la privatisation partielle d'ATB. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors précisons tout de suite qu'on ne parle pas là de l'annulation de la privatisation, mais bien d'une décision qui pourrait permettre d'ouvrir la voie à une forme d'annulation. Et puis surtout, il faut rappeler Anne-Laure que depuis le tout début de cette affaire déjà, les zones d'ombre ont été extrêmement nombreuses.
En effet, cette privatisation de l'aéroport de Toulouse avait été appuyée à l'époque par celui qui était ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Il avait validé un pacte d'actionnaires laissant un champ étonnamment libre à l'acquéreur en notifiant entre autres que l'État devenu actionnaire minoritaire s'engageait à ne pas faire obstacle aux décisions prises par l'investisseur. Un investisseur qui sur le papier n'avait rien de très recommandable. Il faut rappeler en effet que ça n'était pas un seul mais deux groupes d'investisseurs réunis dans un consortium qui s'était porté candidat à l'époque. Casil Europe, un fonds d'investissement chinois dont la holding est basée aux îles Vierges britanniques et plusieurs des filiales dans d'autres paradis fiscaux, et un Canadien, SNC-Lavalin Incorporated. Or, ce Canadien a dû partir en cours de route et pour cause, il avait écopé de la plus grosse sanction jamais prononcée par la Banque mondiale pour des faits de corruption, des faits incompatibles avec le code des marchés publics. Et c'est ce départ d'un des deux investisseurs en cours de procédure qui a motivé la décision de la Cour administrative d'appel de Paris. Le cahier des charges initiales n'a, selon elle, pas été respecté. Dont acte, annulation de la procédure de vente. Cela n'annule pas, vous l'avez dit, la privatisation, mais ça ouvre la voie à un deuxième recours devant un tribunal de commerce qui sera porté, ce recours, avant la fin du mois par l'avocat des plaignants. Un recours donc devant un tribunal de commerce pour annuler cette fois la privatisation pour incapacité de l'État de vendre à Casil Europe. Si une décision de ce type intervient, ce serait la première annulation de privatisation en France. Un sérieux camouflet évidemment pour la présidence et son projet de privatiser l'aéroport de Paris. Rappelons enfin que Casil Europe souhaite revendre ses parts, acheter 308 millions d'euros à l'époque. Il en propose aujourd'hui 500 millions après avoir empoché entre-temps plus de 30 millions d'euros de dividendes.
Merci Anne-Laure Chouin. 6 ans après le scandale de la viande de cheval vendue comme du bœuf en Europe, 2 anciens dirigeants de l'entreprise française Spanghero et 2 négociants néerlandais ont été condamnés hier à Paris pour une succession de tromperies entre les Pays-Bas et la France. L'ancien directeur de l'entreprise de fabrication de viande Spanghero a écopé de 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. 12h49 sur France Culture, l'heure d'ouvrir à présent notre page hebdomadaire consacrée à l'environnement, le moment aussi de se faire peur, car où que l'on regarde dans le monde, au nord comme au sud du globe, eh bien les glaces fondent plus vite que jamais. Toute la série d'études scientifiques publiées récemment disent la même chose. La fonte des étendues blanches, des pôles et des glaciers du monde entier s'accélère de manière vertigineuse. Véronique Robérot, bonjour.
Bonjour.
Alors ces sentinelles du climat, qu'elles soient situées en Arctique, au Groenland, mais aussi dans les Alpes ou bien encore en Patagonie, tous ces glaciers donc ont perdu ces 50 dernières années, des milliards de tonnes d'eau.
9600 milliards de tonnes de glace fondue, disparue en 50 ans. La disparition des glaciers a entraîné une élévation du niveau des mers de près de 3 cm sur la même période, donc ces 50 dernières années. En Antarctique, la débâcle des glaces y est 6 fois plus rapide qu'il y a 40 ans.
Alors l'Antarctique, Véronique, où l'on s'inquiète particulièrement de la fonte rapide de 2 glaciers, Thwaites et puis son voisin Pine Island, qui déverse de plus en plus de glace donc dans l'océan.
Alors ce glacier et d'autres, Eric Rignot l'observe par satellite depuis des décennies. Ce glaciologue basé en Californie, qui travaille en lien avec la NASA, constate chaque jour le travail de sape du réchauffement des courants océaniques. Il tourne autour de l'Antarctique et ces intrusions d'eau chaude vont bien lécher les glaciers, les fragilisent et accélèrent leur fonte. Le glacier de Thouet s'est décrit comme le point faible de l'Antarctique de l'Ouest. Sa disparition aura des conséquences dramatiques. Le glaciologue Éric Rignot joue en Californie.
Le glacier de Thwaites, à côté de lui, il y a aussi le glacier de Pine Island. Donc tous les deux, ils contrôlent un secteur de l'Antarctique Ouest qui peut faire monter le niveau des mers de plus d'un mètre. On les regarde depuis plus de 20 ans maintenant. Ces deux glaciers, on voit qu'ils s'accélèrent de plus en plus. Ce sont des monstres, hein. Ce glacier de Thwaites, il fait 100 km de large. Et chaque année, on les voit se retirer à peu près de 1 km par an. Mais ce sont des choses un petit peu difficiles à discerner à l'œil nu. On utilise des techniques satellites très précises pour mesurer ces choses-là. C'est une retraite très rapide. Pour mettre les choses en perspective, vous ne pouvez pas le voir de la surface parce qu'il y a des parties flottantes qui cachent un petit peu cette jonction avec l'océan. Mais imaginez un glacier alpin qui se retire d'un kilomètre par an. Tous les ans, vous devez faire un kilomètre de plus pour aller retrouver le glacier. Ce sont les taux de retrait les plus rapides de la planète et ça se passe en Antarctique.
Vous, glaciologue, depuis quelques années maintenant, vous imaginiez avoir ça sous les yeux, j'allais dire ?
Non, pas du tout. Je crois que depuis qu'on a regardé ces glaciers, on est un petit peu atterré un peu plus chaque année. Je crois que ça prend aussi même la communauté scientifique par surprise. On a du mal à y croire. On n'a pas d'expérience dans le passé qui nous a montré un petit peu comment ça se passe. Donc on découvre un petit peu au fur et à mesure. Et ce qu'on voit, c'est que les changements sont plus rapides, en partie parce que les process physiques qui conduisent à ces changements sont un petit peu des choses qu'on supposait, mais qu'on ne comprenait pas exactement. Par exemple, l'influence des océans sur les glaciers était quelque chose de plus ou moins connu, mais de très peu étudié. Et maintenant, on se rend compte que c'est un vecteur de changement très important.
Alors, la montée du niveau des océans inéluctable, on l'a compris, que ce soit par la fonte du Groenland au pôle Nord ou des glaciers de l'Antarctique au pôle Sud, est entretenue par cette trajectoire actuelle du réchauffement climatique de l'ordre de 3 à 4 degrés d'ici la fin du siècle. Mais les glaciers continentaux de montagne, eux non plus, ne seront pas épargnés. Les Andes, l'Himalaya, ou bien plus près de chez nous, Véronique, les Alpes, avec d'autres conséquences encore.
Oui, les Alpes, c'est le terrain d'observation du glaciologue franco-suisse Jean-Baptiste Bosson, glaciologue engagé. Il alerte sur la disparition de ces glaciers, donc de montagnes. Ils sont dans beaucoup de régions pourvoyeurs d'eau douce, hein, entre autres qualités. Jean-Baptiste Bosson.
Sans vouloir être alarmiste par rapport à ça, mais c'est clair que la fonte des glaciers, en fait, ça engendre une grosse déstabilisation de la haute montagne. En fait, imaginez que les glaciers, c'est comme un grand bulldozer qui vient éroder, former les vallées. Puis ce bulldozer, quand il occupe tout l'espace, il contraint les murs de chaque côté. Puis une fois que le bulldozer il disparaît, bah, les murs, ils n'ont plus le glacier qui les retient. Et il y a notamment des collègues à l'Université de Savoie qui travaillent beaucoup sur les écroulements qui sont survenus ou qui vont survenir en lien avec le retrait glaciaire et aussi avec ce qu'on appelle la dégradation du permafrost. Le permafrost, c'est la glace à l'intérieur de la roche qui nous cimente les parois rocheuses dans les endroits les plus froids des Alpes. Donc avec le réchauffement global, ce permafrost il est en train de se dégrader, la glace qui est à l'intérieur de ces parois elle est en train de fondre, donc le ciment il est en train de fondre et on assiste à une intensification, en tout cas on observe de plus en plus d'événements mineurs, mais il peut aussi y avoir des très gros éboulements. En fait, la fonte des glaciers en tant que telle, on peut trouver que c'est juste un peu moins beau dans les paysages alpins et encore, en fait les enjeux ils sont majeurs pour le climat global, ils sont majeurs pour le niveau marin global, pour la répartition de l'eau sur Terre. Dans beaucoup de régions du monde, les glaciers c'est les tampons en période de sécheresse. Il y a des centaines de millions de gens dans ces pays asiatiques qui dépendent en partie de l'eau des glaciers pendant une partie de l'année, qui est la période de sécheresse. Donc c'est vraiment des zones qui seront beaucoup plus affectées par les sécheresses. C'est pas que visuel et c'est pas que pour le petit plaisir des glaciologues qui veulent défendre leur bout de glace. L'enjeu des glaciers sur Terre, c'est un enjeu qui est majeur. Il y a très très peu de composantes de la nature qui ont à ce point une conséquence si importante sur le climat global et sur le système Terre.
À noter que 19 000 glaciers continentaux sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils fondent inexorablement. Et si la courbe climatique ne s'avorce pas, ils fondront rapidement. Certains sont devenus des lacs de montagne, prêts aussi à dévaler les pentes montagneuses, à provoquer, c'est déjà arrivé, ce qu'on appelle des tsunamis de montagne lorsque ces lacs viennent à déborder.
Alors, tandis que les glaciologues sont donc atterrés par la fonte des glaciers qui s'accélère, eh bien, certains chefs d'État, eux, Véronique, au contraire, se frottent les mains.
Oui, un océan arctique de plus en plus libéré de ces glaces la plupart du temps. Cela donne des idées aux pays riverains, cela libère l'accès aux richesses minières, gazières, pétrolières, puis ça ouvre de nouvelles routes maritimes. La Russie est sur le coup, bien sûr, explication de Jean-Didier Revoin à Moscou.
Pour la Russie, l'enjeu est clair, faire du passage du Nord-Est, qui relie le détroit de Bering au Cap Nord, l'une des principales voies commerciales de la planète. Cette route maritime, longeant les côtes de Sibérie, permet en effet d'acheminer les marchandises asiatiques en Europe, avec 25 jours de moins qu'en passant par le canal de Suez. L'objectif est d'atteindre un transit de 80 millions de tonnes de marchandises par an en 2025, contre 20 millions aujourd'hui. Mais cette multiplication par 4 du transit nécessite le développement d'infrastructures par le biais de partenariats internationaux. attirés par les perspectives. 350 chefs d'entreprise ainsi que des dirigeants suédois, norvégiens et finlandais ont participé la semaine dernière au forum sur l'Arctique à Saint-Pétersbourg où Vladimir Poutine a présenté les ambitions de la Russie pour la région.
Pour que cette route de transport global tourne à plein régime, nous développerons les communications et infrastructures côtières, y compris des capacités portuaires, des aides à la navigation, à l'observation météo et l'assurance de la sécurité des convois commerciaux.
Il faut en effet permettre aux navires qui utiliseront cette nouvelle route maritime ouverte par la fonte de la banquise de s'arrêter en cas d'avarie ou simplement pour ravitailler. Le réchauffement supplémentaire induit par l'activité humaine quant à lui ne pèse pas lourd face aux retombées financières immédiates générées par l'exploitation du passage du Nord-Est.
À noter aussi que le prochain rapport du GIEC, les experts donc mondiaux du climat, qui doit paraître en septembre, portera sur les liens entre changement climatique, océan et glace. Il ne devrait pas être très réjouissant, si on a bien compris.
Eh bien, merci Véronique Robert. Et on termine avec un mot rapide de météo. Ciel variable sur l'ensemble du territoire, marqué par des passages nuageux et des averses éparses. Les températures, elles seront généralement comprises entre 15 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.